Le canal. Michel Bory.
On parle quelquefois du canal transhelvétique comme d'un projet pharaonique, un serpent de mer, une histoire complètement utopique, comme si ça devait jamais se faire. Or, les gens ne réalisent pas que là, on peut vraiment pas parler d'utopie puisque cela a existé. Il y a eu un canal, il a peut-être pas été complètement terminé, mais il a fonctionné. Et ça nous ramène au XVIIe siècle. Ça, c'est une histoire absolument magnifique. En 1635, une princesse de Hollande, pour des raisons religieuses, devait quitter les Pays-Bas pour se rendre à Genève. Elle était escortée par un majordome, donc elle se déplaçait en berline. Et il y avait un majordome qui était un officier français qui l'accompagnait, Élie Gouret. Ils se sont arrêtés à Yverdon, à l'auberge de Londres. Tout le monde s'arrêtait, enfin tous les riches voyageurs s'arrêtaient à l'auberge de Londres, on changeait les attelages. Et le lendemain, ils ont continué en direction de Morges, visant d'abord Orbe. Et là, Élie Gouret, qui connaissait donc bien la géographie des Pays-Bas, qui y avait vécu longtemps, réalise qu'il y a un grand marais qui prolonge le lac de Neuchâtel, qui va jusqu'au Mormon, et que ce marais, en fait, on pourrait le mettre en valeur en l'irriguant. Et ça, c'est le réflexe hollandais qui dit irrigation, qui dit construction de digues ou de barrages, dit canaux. Il dit on pourrait faire un canal qui rejoindrait le lac de Neuchâtel et le lac Léman pour après descendre vers la Méditerranée. Il faut dire qu'à cette époque, la Hollande, fraîchement indépendante, qui s'était libérée de la puissance espagnole, puisque c'était l'Espagne qui la possédait au préalable, voulait développer son commerce, mais ne pouvait pas envoyer des bateaux tourner la péninsule ibérique. Vu la présence espagnole, les bateaux auraient été attaqués. Ne pouvait pas passer par Gibraltar, donc les marchands cherchaient des voies à travers l'Europe. Et la Compagnie des Indes finançait des projets de ce genre. Vous vous rendez compte, on est en 1635, cet homme a, en voyant la plaine de l'Orbe, l'idée qu'on pourrait percer un canal, aménager un canal. Il voit que dans le Mormon, il y a une faille, une ancienne cluse dans laquelle la voie navigable pourrait se glisser, puis après on ferait des écluses pour descendre jusqu'au lac Léman. Il arrive, bon à cette époque c'était peut-être plus simple, parce qu'il y avait une puissance sur le pays de Vaud, c'était Berne, et il suffisait d'avoir l'accord de leurs excellences pour aller de l'avant. Il arrive en 1638, ayant obtenu tous les accords, à faire commencer les travaux, c'est-à-dire qu'à la pelle et à la pioche, les paysans de la plaine de l'Orbe, des villages d'Orny, Chavornay, Bavois, se sont mis au boulot pour creuser un canal et aménager des digues à travers les étangs. En 1638, donc début des travaux, et en 1648, 10 ans après, le canal atteignait Cossonay. Il n'était pas fini, puisqu'il s'agissait encore de descendre jusqu'au lac Léman. Et là, évidemment, se posait un problème technique, parce que quelques écluses avaient suffi pour monter les bateaux du lac de Neuchâtel, en parenthèse des bateaux qui venaient de beaucoup plus loin, hein, qui remontaient l'Arve depuis le Rhin, ou qui venaient de Fribourg, ou qui venaient de Berne, ou qui venaient de... Hein, il y avait tout un trafic qui se faisait, on halait les bateaux, hein, qui étaient évidemment des petits bateaux d'une dizaine de mètres, On en voit encore chez les pontonniers de l'armée suisse aussi, on appelle ça des Weidling, c'est ce type de bateau-là qui était les chalands de l'époque, et donc qui avançaient par traction humaine, et sur les lacs, évidemment, on transbordait leur chargement sur des bateaux à voile, genre la Vaudoise ou d'autres barques, voilà. Alors, on disait donc que le canal était arrivé avec quelques écluses jusqu'à Cossonay. Il fallait en construire un certain nombre, peut-être même une quinzaine, pour descendre étage par étage jusqu'au Léman. Ça, ils n'y sont pas arrivés. Le dernier port, eh ben, il existe encore pour ceux qui ont envie d'aller se promener. C'est donc dans la plaine au sud des Clépans. Il y a là les entrepôts de la Poste. On est en dessous de Dayan et tout près, d'un côté, Lucerie, Villars-Lucerie, de l'autre. Et là, il y a un étang, au bord d'une cabane de pêche. Cet étang était, donc à côté de la Venoge, parce que là, le canal rejoignait la Venoge. Après, évidemment, la voie navigable aurait dû emprunter la Venoge, et c'est là qu'on aurait dû faire des écluses qu'on n'a pas construites. Alors, reste cet étang qui est le souvenir du port terminal de l'époque où les chargements étaient transbordés sur des chars, descendaient par route, par chemin, jusqu'à Morges. Et là, évidemment, dès qu'on était au bord d'un lac ou au bord d'un fleuve, en l'occurrence au bord d'un lac, on retransbordait le chargement parce que c'était la façon la plus facile de transporter les marchandises et les barques partaient pour Genève ou partaient pour le Bouvray, d'où retransbordement sur des chars destination l'Italie, par le Simplon ou par le Saint-Bernard. Ce canal a fonctionné jusque vers 1855. Donc, ça a été très très important pour l'économie de nos régions. Et vous savez qu'il en reste quelque chose, quand on est un petit peu pompette, qu'on sort d'un café, on dira facilement « je suis sur Soleure hein ». Ben parce que, évidemment, les bateaux transportaient, quand ils montaient vers le nord, montaient d'abord puis descendaient vers le nord, ils transportaient surtout du vin de la Vaud ou du vin de la côte. Donc les équipages, les haleurs souvent, quand ils avaient fini de tirer le bateau, ils remontaient à bord et avec une épuisette, ils étanchaient leur soif. Donc ils étaient très vite sur Soleure. Bon, ils descendaient avec des pommes de terre, alors là ça faisait moins de dégâts au foie et à l'estomac. Hein. Mais l'expression est restée, être chargé sur Soleure, ça rappelle le temps où il y avait tout ce trafic qui se passait par char et par bateau à partir du port du Bouchet, sauf erreur, ou du Bochet, dans la plaine entre Villars-Lucerie et Dayan. Bon, ce projet a été abandonné à ce moment-là. Il faut dire qu'il a subi la concurrence du chemin de fer, vu que c'est en 1855, dans nos régions, a été créée la première ligne de chemin de fer, Yverdon-Morges. Et vous remarquerez, Yverdon-Morges, c'est exactement l'itinéraire du canal ou que le canal aurait dû suivre, enfin, qui était opérationnel entre les chalands et les chars. Donc on a remplacé la ligne fluviale, en quelque sorte, la voie fluviale, par la ligne de chemin de fer. Et donc le train a atteint Morges bien avant d'atteindre Lausanne, parce que, de nouveau, l'essentiel était d'arriver le plus rapidement au lac Léman, d'où transbordement et départ pour le Bouvray ou pour Genève sur des bateaux. Il y a eu aussi, évidemment, quelques problèmes qui ont fait que le canal commençait à coûter cher. La rivière Le Talent qui déboule quand les eaux sont fortes, qui déboule donc de la région des Chalands, qui arrive vers Bavois, Cossonay, et qui passait par-dessus le canal. il y avait un aqueduc. Puis un jour, cet aqueduc s'est effondré, énormément de sable a envahi le lit du canal. Ça coûtait cher, le trafic était devenu moins nombreux, donc c'était une des raisons qui a donné le coup d'estoc, si je peux dire, au canal, qui était, il faut bien le reconnaître, moribond depuis déjà un certain nombre d'années, et qui était donc, qui n'a pas supporté la concurrence du chemin de fer. Enfin, voyez, je risque chaque fois de m'égarer dans des tas de détails, mais je reprendrai le fil, le cours du récit la prochaine fois sur Voxinox, l'histoire du Transhelvétique.
J'ai la jolie rosette au café du canal, sur le tronc du tilleul qui ombrageait le bal. On pouvait lire sous deux cœurs entrelacés, ici on peut apporter ses baisers. Moi, mes baisers, je les avais perdus, et je croyais déjà avoir tout embrassé. Mais je ne savais pas que tu étais venu et que ta bouche neuve en était tapissée. La chance jusqu'ici ne m'avait pas souri. Sur mon berceau, les fées se penchaient pas beaucoup, et chaque fois que je tombais dans un carré d'ortie, y avait une guêpe qui me piquait dans le cou. Pourtant ma chance aujourd'hui elle est là, sous la tonnelle verte de tes cils courbés. Quand tu m'as regardé pour la première fois, ma vieille liberté s'est mise à tituber. On était seul au monde dans ce bal populeux, et dans une seule main j'emprisonnais ta taille. Tes seins poussaient les plis de ton corsage bleu, ils ont bien failli gagner la bataille. J'aime le ciel parce qu'il est dans tes yeux, j'aime l'oiseau parce qu'il sait ton nom, j'aime ton rire et tous ces mots curieux que tu viens murmurer au col de mon veston. Et je revois tes mains croisées sur ta poitrine, tes habits jetés sur une chaise au pied du lit. Ton pauvre cœur faisait des petits bonds de sardine quand j'ai posé ma tête contre lui. Dieu, tu remercies Dieu, ça c'est bien de toi, mais mon amour pour toi est autrement plus fort. Est-ce que Dieu aurait pu dormir auprès de toi pendant toute une nuit sans toucher à ton corps? J'ai la jolie rosette au café du canal, sur le tronc du tilleul qui ombrageait le bal. On pouvait lire sous deux cœurs entrelacés, ici on peut apporter ses baisers.